et nous accueillons François Bousquet. Bonjour.
Bonjour,
vous êtes auteur de La Droite Buissonnière. Vous êtes également le rédacteur en chef d'Éléments. Pour poursuivre sur ce que vous venez de dire, effectivement, Frédéric Sage, je le vois par exemple dans la Drôme avec une circonscription qui est déjà une très grande circonscription et il est quasiment impossible pour quelqu'un, je veux dire sur le plan humain, de circuler de manière équitable entre les différentes portions du territoire, ce qui va peut-être renforcer quelque peu le sentiment qu'il existe une France oubliée, une France rurale par exemple, pas uniquement là dans le cas de la Drôme, c'est plutôt une France rurale. Est-ce que c'est votre sentiment, François Bousquet, justement, que la droite devrait, la droite doit, ou bien la droite est en train de prendre en charge cette inquiétude de la France qui se sent oubliée par le gouvernement Macron?
Appelons-la du nom que Guy lui a donné, la France périphérique en l'occurrence. Oui, c'est un angle mort manifestement des politiques citadines portées par la majorité macronienne. On ferme, pour rebondir sur la chronique, on ferme les maternités, on ferme les pompiers, on ferme les médecins, on ferme les écoles. Bon, bah écoutez, on élargit les circonscriptions des députés, donc on les éloigne en effet des populations qui se sentent de plus en plus reléguées. Donc je crois que s'il y a un avenir pour la droite, c'est ce qu'a fait le Front National, c'est ce qu'essaye de faire en partie évoqué, mais qu'en partie, c'est de s'adresser à cette France des oubliés qui constitue malgré tout une majorité électorale, puisque c'est à peu près 60%, si je m'en tiens en chiffre de Guy Lui, c'est 60% cette France périphérique de la population française. Donc 60% réduit à l'état d'angle mort, qui sont pénalisés avec un contrôle technique qui est devenu désormais très complexe, avec une vitesse...
Contrôle technique des voitures.
Des voitures, pardon, oui. La vitesse également pénalise évidemment le réseau secondaire principalement parce que tous les déplacements dans cette France périphérique se font pas pour les transports en commun mais par le transport individualisé qu'est la voiture.
Donc également ne pas la pénaliser s'il permet de sauver des vies quand même, François Bousquet.
C'est pas prouvé là en l'occurrence ou bon, enfin bon, qu'importe. Hein.
On va pas polémiquer sur la diminution de la vitesse, mais en tout cas, on comprend bien ce que vous évoquez, François Bousquet, et il y a effectivement une stratégie à droite qui aujourd'hui consiste à dire qu'on va s'adresser à cette France oubliée par la Macronie. Le problème, c'est le verbe adresser. On se demande si ça n'est pas une promesse purement verbale, parce que la droite a jadis été au pouvoir en France, et c'est elle qui a aussi contribué à faire en sorte que cette France oubliée se sente et soit peut-être oubliée.
Oui, du reste, c'est la stratégie buissonnière en 2005-2007 de s'adresser à la fois à une France conservatrice, plutôt bourgeoise, plutôt citadine, en tout cas l'Ouest parisien et les grandes villes de province, mais aussi de s'adresser directement à la périphérie, donc à la France des oubliés, à une France qui se sent abandonnée. Donc c'est pas la première fois que la droite tourne son regard vers cette impensée institutionnelle.
Un impensé institutionnel qui n'a pas été suffisamment pris en charge par Nicolas Sarkozy, selon vous, François Bousquet?
Sarkozy, il s'y est adressé en 2007 et il s'y est réadressé de nouveau en 2012, mais c'est pour l'oublier entre 2007 et 2012. Que fait-il en 2007 dès qu'il a le pouvoir? Il ouvre sa majorité à Fadela Amara, à Kouchner, etc. Enfin bref, il tourne le dos à son électorat populaire. Donc l'électorat populaire le lui a fait payer en 2012 en ne le réédisant pas et en se reportant massivement sur le Front National. Donc tout l'objectif aujourd'hui, c'est une lutte en réalité entre le Front National et les LR pour conquérir, pour capter, pour préempter cet électorat.
Frédéric Saïs.
Oui, on parle souvent d'un rapprochement Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, en tout cas sur le point de vue des idées. En réalité, il y a plutôt un précipice qui se crée avec une primaire qui ne dit pas vraiment son nom. Il y a l'idée que le premier des deux, entre guillemets, sur ces thèmes effectivement très très régaliens, très souverainistes pour d'un certain
et
point de vue
et identitaire,
le premier de ces deux en 2022 sera celui qui sera qualifié pour le second tour et qui pourra avoir l'occasion de battre Emmanuel Macron. Et c'est d'ailleurs ça qui explique les remous qu'on voit actuellement chez LR, parce que Laurent Wauquiez est convaincu qu'il faut jouer cette primaire qui ne dit pas son nom face à Marine Le Pen et qu'il faut aller jusqu'au bout sur ces thèmes, montrer qu'il est sur les mêmes thèmes, mais meilleur qu'elle et plus crédible.
Disons que ce sont en effet des rivalités pour conquérir cet électorat, alors que les bases LR et les bases Front National se rapprochent de plus en plus. Les états-majors se disputent, évidemment, ils se disputent le morceau de fromage. Cela étant, il n'est pas dit que et l'un et l'autre soient présents en 2022. On verra, ce sont deux partis en crise, des crises structurelles, profondes, lourdes, qui ont été ouvertes par les l'épisode Macron en 2017, qui a fait imploser les structures partisanes traditionnelles. Donc il n'est pas dit que ce soit Wauquiez et Marine Le Pen. Peut-être que entre eux, ce sera peut-être Macron, sans faire de jeu de mots, ce sera peut-être Macron-Marion. À voir. Enfin là, on ne peut pas lire dans les cartes électorales.
Et c'est justement, on se dit du coup que s'il y avait un espace électoral, il ne serait pas forcément là où la ligne Buisson dit qu'il est, mais peut-être plus au centre. Pourquoi ne pas penser que cette stratégie qui manifestement, ne profite pas à Laurent Wauquiez, puisqu'il est considéré comme étant après le Front National aujourd'hui dans les sondages d'opinion lorsqu'il s'agit d'incarner l'opposition. Sa cote de popularité demeure aux environs de 15% dans l'opinion. Donc tout ça tendrait à penser que cette stratégie fonctionne mal, François Bousquet.
Laurent Wauquiez n'a pas encore fait des choix. Il les a fait en limogeant Valérie Calmels. Mais il n'avait pas fait des choix clairs parce qu'en fait, il reprend littéralement la ligne Sarkozy qui est de cliver. Et en effet, il clive, c'est-à-dire qu'il fracture l'opinion. Il envoie des messages transgressifs. Mais parallèlement, il essaye de fédérer. D'où la présence de Calmels au sein de l'état-major des LR. Donc le message était brouillé en quelque sorte. Là, il est plus brouillé. Donc on va voir. Cela étant dit, il y a un problème de leadership et de crédibilité chez Laurent Wauquiez, mais il n'y a pas d'espace politique. La stratégie Wauquiez, en réalité, peu importe le personnage, mais la stratégie, elle est logique, elle s'explique. Il n'y a pas d'espace politique entre Macron et Marion. L'espace a été vampirisé, a été préempté, a été absorbé par Macron. C'est-à-dire que ce qu'il a fait à gauche en 2012 avec Hamon, c'est-à-dire qu'il a fait imploser le PS, l'implosion des LR. L'implosion du PS a été immédiate, a été instantanée, mais l'implosion des LR se fait en deux temps. Donc il a récolté au gouvernement Darmanin, Le Maire, enfin vous le savez tout ça, Philippe, bien sûr. Xavier Bertrand a quitté les LR. Donc en réalité, il a privé l'aile centriste des LR. En fait, on est revenu à une situation antérieure à la création de l'UMP. C'est-à-dire, on est revenu en fait à l'UDF. Et l'UDF aujourd'hui est à Matignon. Donc il n'y a pas d'espace politique, c'est la stratégie évoquée, il n'y a pas d'espace politique, puisque précisément l'ex-UDF, de Bérou jusqu'à Philippe de Villiers, c'est ça qui est surprenant, jusqu'à Philippe de Villiers, je dis bien, ces gens-là sont à Matignon désormais.
Mais alors, il y a quelque chose d'intéressant dans l'anthropologie buissonienne, dans celle qui a été présentée dans La cause du peuple, c'est que finalement, Patrick Buisson considère que la droite, la vraie droite pour lui, est celle qui va prendre en charge non seulement l'inquiétude du peuple, mais en quelque sorte la permanence de ce qu'est la nation. Et effectivement, Emmanuel Macron, par rapport à ça, est dans une vision où la France doit être dans une réforme, tout doit être réformé et tout doit changer. Il y a un homme à la surface du globe qui mène une politique où il considère que les choses doivent rester en l'état. Par exemple, Donald Trump, lui, dit aux ouvriers américains que l'acier, l'aluminium, l'automobile va continuer à être produite. Est-ce que finalement, la droite française ne pourrait pas s'inspirer de Donald Trump, François Bousquet?
Il y a une spécificité américaine, ne serait-ce que Trump. Trump n'est pas envisageable en France. Il n'est pas importable. C'est pas un produit d'importation. Il a des codes américains. C'est les codes de Barnum, de la Société du spectacle. C'est pas concevable ici. Sa politique étrangère n'est pas non plus, je crois, transposable en France. Il vaut mieux regarder peut-être du côté du Brexit. En tout cas, c'est ce qu'a fait Buisson. C'est qu'il s'intéresse à la formule gagnante, plutôt du Brexit, plutôt que de Trump. Parce que vraiment, je me répète, c'est un cas à part. L'Amérique et Trump encore plus.
Si au départ, Trump de son côté effectivement Barnum, comme vous dites, si on garde juste le fait de considérer que cet homme a repéré ce qu'était l'Amérique conservatrice, l'Amérique traditionnelle, et qu'il propose en quelque sorte de tout faire pour que celle-ci demeure identique. Pourquoi la droite française ne parvient-elle pas à formuler ce type de promesse?
On n'a pas une tradition conservatrice vraiment établie en France. Les Américains, les Anglo-Saxons en ont une. Nous, le conservatisme, en réalité, est sorti des écrans radars politiques à la fin du 19e siècle, alors qu'il est resté toujours très vivace aux États-Unis et en Angleterre. Donc je ne crois pas que ce soit tout à fait transposable. Ce que Buisson pense, pour m'en tenir à lui, c'est qu'il croit qu'il faut qu'on lève, c'est la théorie de Jean-Claude Michéa. Il croit qu'il faut qu'on lève les équivoques autour du libéralisme. C'est que Michéa dit qu'on assiste aujourd'hui, et c'est le phénomène Macron pour ça est très parlant, quoi. C'est qu'on assiste aujourd'hui à la réunification de l'unité anthropologique du libéralisme de gauche, donc plutôt sociétal, plutôt culturel, du libéralisme de droite, qui est un libéralisme de droite situationnel. On est en train aujourd'hui d'assister à cette fusion dans une grande coalition de centre, mais centre du reste n'est pas le bon terme, dans une grande coalition centrale. Donc la droite n'a plus à être libérale. La droite doit être, du reste on voit apparaître dans les pays d'Europe de l'Est un nouveau concept assez intéressant qui peut-être va arriver chez nous, c'est la démocratie dite illibérale. C'est-à-dire qu'il y a une critique de tous les peuples. En réalité, la révolte populiste est une révolte contre le libéralisme, cette globalisation, entre autres migratoire, mais pas seulement. Donc c'est ce à quoi appelle Buisson, lui, la stratégie qu'il préconise, c'est plutôt ce que les Anglais appellent un tourisme rouge. C'est un conservatisme, c'est post-thatchérien, si vous voulez. C'est-à-dire une alliance d'une classe conservatrice et des catégories populaires.
Frédéric Seitz, votre point de vue.
Vous évoquiez à l'instant le fait que la droite n'a plus à être libérale, en tout cas économiquement, à vous entendre. C'est peut-être l'une des difficultés qui va le plus guetter Laurent Wauquiez dans les prochaines années. C'est le rapport à l'Europe, puisque une fois qu'on a sorti quelques idées sur le souverainisme, c'est l'un des rares, là pour le coup, à l'employer. Et il est, de ce point de vue-là, me semble-t-il, à rebours de François Fillon pendant sa campagne de 2017, qui lui était sur une vision de libre-échange assez assumé, une vision assez libérale. Laurent Wauquiez dit « Oui, on peut avoir aussi des réflexions sur le protectionnisme et le libre-échange n'est pas notre seul horizon. » Mais est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout de ce raisonnement et dire « Eh bien, moi, je me détache aussi des traités européens qui gravent dans le marbre cette vision du libre-échange comme horizon indépassable. » Et est-ce qu'il pourra dire, par exemple, « Je quitte les traités, je les remets en cause, voire je quitte l'euro. » Pour l'instant, il n'en est pas question pour une raison électorale assez simple, c'est qu'il ne veut pas s'aliéner le vote des retraités qui, eux, sont assez attachés à l'euro.
Votre point de vue, François Bousquet, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments.
Entre quitter l'euro et remettre en cause les traités, en particulier l'espace Schengen sur la question migratoire, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il pourra pas, pour la question de l'espace Schengen, c'est la question prioritaire.
Mais sur le protectionnisme économique ?
Il faudra évidemment s'entendre avec des voisins, il ne pourra pas s'entendre avec des voisins. Donc, mais cela étant, il n'y a pas pour lui, s'il veut être élu, on n'en est pas là, hein, bien sûr, c'est la seule stratégie, c'est la cohérence idéologique. Il ne pourra plus faire le grand écart qu'il a fait jusqu'à présent. Le grand écart, avec le grand écart, il plafonne dans les sondages.
Alors ça, en tout cas, c'est typiquement la théorie de Patrick Buisson, qui considère que la triangulation qui a été prôné, loué à l'époque de Nicolas Sarkozy, donc comme vous le dites, avoir des ministres d'ouverture et également avoir une aile droite et soutenir son aile droite, Patrick Buisson considère qu'on finit toujours par payer ce genre de stratégie. En est-on aussi certain, François Bousquet ?
Oui, oui. Bah, la triangulation, c'est marrant. Tous les partis politiques, sous l'influence des communicants, ont adopté le concept de triangulation, pour faire bref et clair, si j'espère. C'est un peu la dialectique, la triangulation, c'est la thèse. La thèse, l'antithèse, la synthèse. La thèse, c'est la droite. L'antithèse, c'est la gauche. Et la synthèse, c'est la droite. En réalité, ça a été inventé par les Clintoniens. Ça ne marche qu'au centre, la triangulation. C'est quand on est de droite, on s'adresse à la gauche. Et quand on est de gauche, on envoie des signaux à la droite. Mais ça ne marche que lorsqu'on est dans la position de Macron, dans une position centrale. Alors en effet, là, on peut capitaliser à partir de la triangulation. Mais dès lors qu'on est arrimé soit à droite, soit à gauche, on ne peut pas trianguler. Philippot, par exemple, a voulu trianguler en 2017. C'est un échec complet. La triangulation pour Philippot a consisté à s'adresser à la France insoumise.
C'était une triangulation un peu particulière, puisqu'elle venait du Front National.
Je vous l'accorde, mais il n'empêche, ça ne marche pas, la triangulation, parce qu'elle n'est pas cohérente idéologiquement. Si on revient aux doctrines, on est obligé de renoncer à la triangulation.
Mais alors, sans utiliser ce néologisme, ce que l'on pourrait vous rétorquer, c'est que la droite en France a toujours remporté l'élection présidentielle lorsqu'elle était au centre. Ça a débuté avec Pompidou. Valéry Giscard d'Estaing était une excellente incarnation avec ses deux Français sur trois. Jacques Chirac, c'est inutile de se perdre en long discours. Bref, c'est toujours cette droite-là qui, en France, l'a emporté. Pourquoi abandonner une formule qui fonctionne ?
Mais elle fonctionnait jusqu'à Macron. désormais, Macron a ouvert une séquence qui n'est pas prête de se refermer. Cette séquence a entraîné un processus de décomposition, recomposition du paysage politique. Hein. Donc, désormais, le candidat giscardien de 2 Français sur 3, en tout cas, c'est son vœu, c'est Macron. Parce que Macron triangule sur sa droite et sur sa gauche, hein, et aspire à réunir autour de lui une majorité solide. Mais ça ne marche, ça ne peut plus marcher pour la droite, puisque Macron est là. Macron occupe l'espace traditionnel du centre-droit.
François Bousquet, vous avez développé la notion de droite hors les murs avec un certain nombre de penseurs, publicistes, essayistes qui aujourd'hui sont des sources d'inspiration pour la droite dure. Je pense par exemple, bien entendu, à Éric Zemmour ou à De Villiers qui était jadis homme politique et qui aujourd'hui fait moins de politique et plus d'essais, plus d'interventions dans le domaine public. Que pense-t-elle cette droite hors les murs, comme vous l'appelez ?
Alors Villiers, il en est un petit peu sorti à cause de la relation privilégiée qu'il entretient avec Macron, ce qui n'est pas sans poser problème pour cette droite hors les murs, parce qu'elle reposait sur une sorte de ce que les anglo-saxons appellent un shadow cabinet, enfin un cabinet fantôme en fait, où il y avait Zemmour, Buisson et Villiers. Et Villiers en est plus ou moins sorti, c'est une droite orpheline, la droite hors les murs, d'où le fait qu'elle soit buissonnière, en l'occurrence là, au sens littéral du terme. Et elle cherche une incarnation qui fait défaut, mais la nature politique a hors du vide. Il y a une demande électorale manifeste, de la manif pour tous jusqu'à un électorat conservateur populiste.
Oui, parce que peut-être pour préciser ce qu'elle pense, donc on voit à peu près qui la compose, mais quels sont en quelque sorte les piliers idéologiques de cette droite hors les murs, François Bousquet ?
C'est l'attachement à l'identité, l'attachement à la civilisation, la conviction qu'une nation ou qu'un peuple, c'est une communauté de culture, une communauté de mœurs, une communauté de destin, d'où son inquiétude à l'égard du phénomène migratoire, qui est une inquiétude centrale. Autrefois, elle était souverainiste, elle reste souverainiste, mais les questions identitaires, les enjeux identitaires sont désormais prévalent, prennent le dessus sur les questions de souveraineté. Donc c'est ça, en substance, la droite hors les murs. C'est une droite qui se veut, je ne veux pas employer le mot éternel, mais je veux prendre l'adjectif, l'épithète que vous employez, qui veut s'inscrire dans la durée. C'est une droite pérenne. Mais de fait, aujourd'hui, elle est hors cadre, elle est hors champ, elle est pas dans l'agenda politique. Mais simplement, tous les fantasmes que porte, enfin, ou les fantasmes, tous les désirs que porte cette droite dans les murs convergent vers une figure aujourd'hui qui est, vous pouvez pas faire une conférence en province sans que son nom revienne, vous pouvez pas faire une intervention, où que ce soit en France sans que son nom apparaisse, c'est Marion Maréchal, Donc, de fait, les conservateurs et les populistes, fantasment autour de ce nom-là et de cette personnalité-là.
Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que finalement, c'est une femme qui a dit peu de choses, elle n'a pas de doctrine politique achevée, elle est très jeune. Pourquoi finalement projeter sur cette personne, alors sauf peut-être sur la seconde partie de son patronyme, Le Pen, mais en dehors de ça, on ne comprend pas bien en fait pourquoi cette femme qui ne dit rien, puisque à ce que je sache, elle n'a pas tenu discours politique récemment, pourquoi ferait-elle en quelque sorte les beaux jours demain de la droite dure, François Bousquet ?
Parce qu'il y a, vous le savez, à droite, il y a un mythe, qui est le mythe de l'homme providentiel ou de la femme providentielle qui travaille en profondeur le champ politique à droite. Marion Maréchal, désormais Marion Maréchal, puisqu'elle ne veut plus qu'on l'appelle Le Pen, a malgré tout, quand elle a quitté la scène politique, a donné un entretien, j'allais dire testamentaire, mais à son âge, il est difficile de parler de testament, à Valeurs Actuelles, dans lequel elle préconisait cette fameuse ligne Buisson, c'est-à-dire une alliance des populistes et des conservateurs. Donc il est évident que les populistes et les conservateurs conséquents s'y retrouvent.
Frédéric Seitz.
Sur la question des alliances, on a l'impression que 2017, c'est ce qu'on avait dit à l'époque en tout cas, avait marqué un tournant pour le Front National. Pour la première fois, le Front National s'alliait avec un autre parti, on va dire, qui existe sur la vie politique française, qui est celui de Nicolas Dupont-Aignan, lequel avait même accepté d'être Premier ministre à l'époque. Tout le monde avait parlé de révolution. Ça y est, c'est fini, le cordon sanitaire. Le Front National va pouvoir progresser, va élargir son champ, va faire des alliances et va de ce fait plus peser et être en position de gagner. Or, un an après, il s'avère que Nicolas Dupont-Aignan n'est plus là. Il ne veut même pas s'allier avec le Front National pour les élections européennes. Les autres partis LR, on en a parlé, il n'en est pas question non plus. Est-ce que le Front National bute toujours sur cette question centrale ?
Oui, oui, mais elle bute surtout sur l'échec du débat de Marine Le Pen, hein, sur post-electoralum animal triste. Hein, c'est que les électeurs ont vu, ont pu jauger de la crédibilité de leur chef, Marine Le Pen, dans son débat face à Macron. Donc je crois que le Front National s'est toujours pas relevé de ce débat. Alors évidemment, c'est, les partis politiques ne meurent pas brutalement, ne meurent pas subitement. Il y a beaucoup d'inertie, donc ils meurent lentement. Mais je le redis, ELR et Front National sont deux partis en crise. Ils en ont conscience, ils communiquent pas dessus, mais c'est une crise structurelle. Il est peut-être possible que ce type de structure partisane ait fait son temps. Même un parti anti-système comme le Front National reste un parti traditionnel.
Mais justement, est-ce que vous pensez que Marion Maréchal pourrait devenir en quelque sorte l'Emmanuel Macron des conservateurs? Si c'était cela en fait la manœuvre, vous risquez de faire fuir plus encore d'électeurs attachés à la droite classique vers la République en marche.
Mais ils ont déjà fui. Ils ont fui le soir du premier tour quand François Fillon a appelé à voter Macron.
C'est-à-dire qu'il a dit. Ils ont fui à 80%.
D'après
les chiffres.
Parce que on restait sur le débat. Je crois que c'est beaucoup moins important. Il y a beaucoup plus de gens qui sont susceptibles de voter plus à droite que les 20% qu'ils l'ont fait en 2017. Hein.
Dans les références intellectuelles de ce que vous appelez la droite hors les murs, François Bousquet, il y a finalement une figure commune, c'est celle de Maurras. Est-ce que ça n'est pas étonnant et, j'allais dire, même surprenant qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la figure intellectuelle à laquelle se rattacher ce soit quelqu'un comme Maurras, Joseph de Maistre est aussi un personnage important pour Patrick Buisson. Est-ce que vraiment ces deux individus, indépendamment de tous les épithètes qu'on peut leur accoler, celui d'antisémite par exemple, pour Maurras, est-ce que ce sont des penseurs qui permettent de comprendre le monde d'aujourd'hui?
Je suis pas sûr qu'il soit l'Action française est plus grand que le courant de pensée de Charles Maurras. C'est beaucoup plus grand que son principal leader, en l'occurrence Charles Maurras. Et l'image de Charles Maurras a été dégradée par sa présence à Vichy pendant la guerre. Alors que beaucoup de Maurassiens et de gens de l'Action française étaient à Londres. Énormément, les premiers compagnons de De Gaulle venaient de l'Action française. Je pense que c'est l'Action française qui est plus importante, puisqu'il y a peut-être une nostalgie pour l'Action française. Pourquoi? Je le dis brièvement, c'est que l'Action française a exercé pendant un demi-siècle une hégémonie intellectuelle en France. Elle avait agrégé autour d'elle quantité d'historiens, d'auteurs, de poètes. Je rappelle que Proust lisait au quotidien, quand sa santé lui permettait, lisait la F parce que la qualité de la prose était remarquable. Walter Benjamin, allemand, baudelairien, lisait l'Action française que pour la qualité de le journal, je parle. Donc je crois qu'il y a une nostalgie qui pour les années d'avant 1940, quand la droite exerçait, enfin en tout cas dans le champ intellectuel. Je parle dans le champ intellectuel.
Mais un penseur, ça sert aussi à penser un phénomène, une réalité.
Je suis pas sûr que alors Maurras, évidemment,
Je parle pas forcément de Maurras, mais par exemple cette droite que vous évoquez, celle de Kérilly, celle d'Honoré d'Estienne d'Orve, c'était une droite qui a agi de manière extrêmement brave pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on ne lui doit pas un corpus philosophique qui permette de penser.
Ça, c'est sûr, la droite a arrêté de penser depuis assez longtemps. Donc en effet, ça c'est plutôt la geste héroïque des gens que vous citiez. On peut ajouter également Bernanos, ce type de profil.
Mais alors Bernanos, dans une situation beaucoup plus paradoxal par rapport à Franco, par rapport
C'est parce que parce qu'on a décidé une fois pour toutes que Maurras était mauvais et Bernanos était bon. Rappelez-vous, le premier grand livre de Bernanos, c'est La grande peur des bien-pensants, chef-d'œuvre absolu, c'est un éloge de Drummond. Donc on parlait d'antisémitisme, là en l'occurrence.
Oui, mais qu'il a récusé. Je parle de l'antisémitisme après-guerre.
Oui, il a dit que Hitler avait déshonoré l'antisémitisme. Mais on ne peut pas réduire ça à ça. Alors évidemment. Pour ce qui concerne Buisson, parce que c'est le sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé, Buisson s'intéresse à Maurras, oui, parce que son père était Camelot du Roi. Les Camelot du Roi étaient des grands militants. C'était la chevalerie du militantisme. Mais c'est pas l'école de pensée vers laquelle il se dirige. Lui s'intéresse à la doctrine sociale de l'Église, aux penseurs chrétiens de la fin du XIXe siècle, qui étaient des penseurs antilibéraux. C'est la première droite, à une droite originelle, une droite authentique. C'est Frédéric Leplé, fondateur de la sociologie, de la statistique. C'est le comte de Chambord qui avait fait une lettre aux ouvriers. Les référents mentaux qui structurent la pensée de Patrick Buisson, beaucoup plus que Charles Maurras.
Donc des penseurs conservateurs, des penseurs de la famille.
Les chrétiens.
Merci François Bousquet de nous exposé en quelque sorte ce paysage et cette cartographie de ce que vous appelez la droite hors les murs.